Radio Orient présente Pluriel. Pluriel animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Sabrina Agresti-Roubache, députée Renaissance de Marseille. Bonsoir.
Bonsoir Loïc, bonsoir à tous.
Alors Sabrina Agresti-Roubache, avant de vous poser des questions notamment sur Marseille, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours personnel et politique, un parcours qui est lié bien sûr à votre ville ?
Alors, le parcours, c'est le parcours d'une Marseillaise pure jus. Donc moi, je suis évidemment née à Marseille, dans l'un des quartiers, une des grandes cités qui s'appelle Félix-Plat, qui est juste derrière le Vieux-Port. Donc je suis issue d'une famille, donc mon papa est arrivé d'Algérie en 67, ma mère est née en France. Je vais au lycée, je passe mon bac littéraire et puis je découvre le cinéma. Et j'entame une carrière dans le cinéma assez tôt, bien sûr, après avoir passé mon bac, obligation imposée par ma mère, tu finis tes études. Et j'ai eu la chance quand même de découvrir très tôt ce que j'avais envie de faire, donc travailler dans la production au cinéma. Je démarre avec Akhenaton à l'époque, Akhenaton, IAM, le groupe IAM, et je fais mes classes, donc en démarrant, j'étais stagiaire de production, jusqu'à monter ma boîte de production en 2014, série Marseille. Je fais la production exécutive pour Pascal Breton, Fédération Entertainment, qui était lui le producteur délégué, donc pour Netflix, et je rachète une boîte qui s'appelle Seconde Vague Production. Avec un producteur qui m'a formée. Et voilà, donc j'installe ma boîte de prod à Marseille. Et évidemment, j'avais déjà pris l'habitude d'être souvent à Paris, puisque quand vous travaillez dans la production, toutes les grandes institutions et les grands donneurs d'ordre sont parisiens. Donc j'ai quand même une vie entre Paris et Marseille depuis longtemps. Une vie qui a été... Donc j'ai vécu quelques années à Casablanca, au Maroc. Et un jour, je rencontre le président de la République. Il démarrait sa campagne à Marseille en 2016, en novembre 2016, et voilà comment je rentre en politique.
Et alors, quel sens donnez-vous justement à votre engagement politique, Sabrina Agresti-Roubache ? C'est d'abord défendre Marseille ?
Alors, c'est défendre Marseille, mais défendre plus largement les valeurs françaises, les valeurs du pays. C'est Marseille bien sûr en premier, mais c'est pas seulement Marseille. Je suis élue en 2016 pour un premier mandat à la Chambre de commerce, parce qu'au départ c'est plutôt des engagements. Puis moi ça fait très longtemps que je travaille avec des assos et où j'œuvre, on va dire, sur le terrain dans plein de domaines qui me touchent, la lutte contre les violences faites aux femmes, la protection de l'enfance, la culture. La diffusion de la culture dans nos quartiers populaires. Donc ça, c'est un premier mandat. Deuxième mandat, je suis élue avec Renaud Muselier l'année dernière pour la première fois conseillère régionale, au même moment où j'écris un livre que je sors, donc chez Albin Michel. Donc j'ai écrit mon premier livre qui est sorti le 26 janvier de cette année. Moi, la France, je la kiffe. Donc vous voyez, je l'ai bien intitulé « Moi, la France, je la kiffe », pas « Moi, Marseille, je la kiffe ». Donc c'est pas juste un engagement d'une Marseillaise pour Marseille, c'est l'engagement d'une Marseillaise pour sa ville, mais pour son pays.
Alors j'aimerais qu'on évoque un premier sujet, c'est le plan Marseille en grand, annoncé il y a un an, le 2 septembre 2021. Ouais. C'est une sorte de plan Marshall destiné à mettre fin aux inégalités subies par les habitants de votre ville. Quels sont les chantiers et les projets qui ont avancé en un an ?
Alors, le plan du Marseille en grand, moi qui ai participé aux toutes premières discussions avec le président de la République, avant même que cela ne soit rendu public, le plan du Marseille en grand est selon la vision du président, qui était la mienne. De toute façon, on a une passion en commun, c'est Marseille, c'est vrai. C'était de dire Marseille est la deuxième plus grande ville de France. Je rappelle quand même que sous le mandat, parce qu'on lui fait souvent un mauvais procès à Jean-Claude Gaudin, en 25 ans, vous voyez, moi je suis née dans un quartier juste derrière le Vieux-Port, Marseille a changé en 25 ans. Il y a de grandes choses qui ont été faites, Marseille capitale de la culture, Euro-Méditerranée, donc on peut pas dire la ligne TGV, enfin, donc des choses ont été largement avancées. Mais dans l'esprit du président, c'était la deuxième plus grandes villes de France, face à la mer, face à la Méditerranée, qui a un enjeu euro-méditerranéen primordial. C'est Marseille qui est centrale dans ce jeu-là, doit aller beaucoup plus loin. Non pas juste Marseille a pris du retard. Vous savez, Marseille est une ville complexe par sa composition politique, mais par ses habitants. Donc le plan du Marseille en grand, c'était de dire quels sont les chantiers prioritaires. L'école, 174 écoles rénovées dans le plan du Marseille en grand, avec 650 millions en garantie de l'État, plus à peu près 400 millions d'aides de l'État, ce n'est pas rien. Donc les chantiers de l'école, parce que l'éducation est prioritaire. Mais pas l'éducation est prioritaire dans les quartiers prioritaires, l'éducation est prioritaire dans nos vies. Vous voyez ce que je veux dire? C'était quand même de partager cette vision, de dire notre qu'est-ce qui fait avancer un pays, c'est quand même l'éducation de ses enfants. La deuxième chose, dans le Marseille en grand, c'était le plan mobilité. Pour désenclaver les quartiers nord, bien sûr, mais moi je porte très haut et très fort le désenclavement de ma circonscription, qui sont les quartiers Est, et qui aussi sont enclavés. Quand vous regardez qu'à la Valentine, les Camoins, les Acates, nous n'avons pas plus de transport que dans les quartiers nord. Donc moi, ok, les quartiers nord, mais les quartiers Est comptent aussi et ont un vivier aussi d'un bassin, comme on dit, un bassin de vie économique et de citoyens, donc importante. Donc dans le plan du Marseille en grand, la mobilité, mais pour Marseille, pas juste pour les quartiers nord. Et la troisième chose, et croyez-moi que les habitants de ma circonscription trouveront en moi une grande défenseuse de la mobilité dans nos quartiers, qui sont de magnifiques quartiers, les quartiers Est de Marseille. On les regarde peu, mais sont très intéressants par leur géographie. Nous avons beaucoup d'espaces verts, nous avons beaucoup de familles qui y vivent, beaucoup de sociétés qui viennent s'installer. Et je rappelle les entrepreneurs de Luvonne, qui rassemblent plus de 200 entreprises dans ma circonscription. Donc, sur le plan mobilité, et je le dis puisque ça a été acté avec la présidente de la métropole, Martine Vassal, l'extension du tramway des Cailloles jusqu'à la Valentine et jusqu'à la Barasse. Donc voilà, tout ça c'est le Marseille en grand. Et le troisième volet c'est la culture, avec un projet de studio cinéma, et puis moi qui suis productrice, Dieu sait comment je me suis impliquée dans la sortie justement de ce Marseille en grand sur le studio, parce que Marseille doit continuer à être une terre d'accueil de tournage. Donc l'Occitanie se défend parfaitement bien et nous challenge. Maintenant, à nous de proposer des outils idoines pour accueillir les plus grandes productions internationales. Trois volets, l'école, la mobilité, la culture.
Alors c'est à Marseille qu'a été lancée l'expérimentation de pédagogie innovante. Quel retour avez-vous de la part des enseignants et des parents d'élèves? Je crois que cela concerne au total 59 établissements scolaires.
Absolument, sur la base du volontariat. Sur la base du volontariat, donc ce n'est pas quelque chose d'imposé, parce que par définition, quand on veut expérimenter, il faut le faire sur la base du volontariat. Et l'école du futur, en deux mots, hein, juste pour que nos auditeurs comprennent, ça permet aux chefs d'établissement qui s'engagent donc dans ce process de pouvoir choisir son équipe pédagogique et de réaménager le temps de l'école sans renier sur les fondamentaux. Savoir lire, écrire, compter, le français et les maths. Et d'intégrer plus, donc, de la culture, des activités culturelles, des activités sportives. Donc, l'école du futur, ça permet, en résumé, aux chefs d'établissement de composer, donc de choisir les sensibilités pour composer son équipe pédagogique d'instituteurs. Parce que, vous savez, pour aller travailler dans telle ou telle école, selon où vous habitez, il faut une certaine motivation. Tout le monde n'est pas motivé à aller travailler dans tel ou tel secteur. Et je trouve que l'école du futur est probablement l'école du futur de la France, c'est-à-dire réaménager les temps et adapter les temps d'école au rythme de nos enfants et intégrer plus de culture et de sport dans leur temps d'apprentissage.
Sabrina Agresti-Roubache, le plan Marseille en grand prévoit la création de carrefours de l'entrepreneuriat. L'idée, c'est d'accompagner les jeunes chefs d'entreprise et de donner de l'emploi aussi aux Marseillais?
Absolument, c'est un outil de création d'emploi et de c'est exactement ça, vous l'avez parfaitement résumé. Les carrefours de l'entrepreneuriat ont rencontré un très 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 grand succès et ça permet donc à l'État de mettre à disposition des jeunes créateurs d'entreprises des outils, des dispositifs financiers, mais des dispositifs d'accompagnement. Créer sa boîte, c'est compliqué. Pour qui que ce soit, ce n'est pas juste compliqué pour les Marseillais, c'est un dispositif national, hein. Donc les carrefours de l'entrepreneuriat ont rencontré un vif succès parce que, remarquez bien, nos jeunes ont envie d'autonomie, de liberté, de choisir les sujets sur lesquels ils s'impliquent. Et on voit bien que le succès vient de là, parce que ça leur permet de justement de choisir leur activité. Mais à la fois, choisir son activité, il y a des contraintes. Être chef d'entreprise, c'est compliqué. Moi qui suis chef d'entreprise, je l'ai été, maintenant je ne le suis plus, je suis députée, j'ai cédé la présidence de mes deux sociétés. C'est complexe parce que vous vous retrouvez souvent seul face à de grands enjeux comptables, l'expertise comptable, l'accompagnement dans le business model, l'accompagnement dans les prêts auprès des banques, dans la recherche de financement, dans la composition de ses équipes, dans le management. Donc les carrefours de l'entrepreneuriat, c'est tout ça. C'est un dispositif qui aide les jeunes chefs d'entreprise à se développer et justement qui leur donne la possibilité de s'appuyer sur des professionnels, sur tout un réseau et aussi un accompagnement financier d'aide de l'État.
Alors Sabrina Agresti-Rouba, je vous l'avais dit tout à l'heure, le plan Marseille en grand prévoit la rénovation de 174 écoles primaires et maternelles. Il y a une question qui doit être encore arbitrée, je crois. Faut-il que ces chantiers soient attribués à des PME locales ou à de grandes sociétés du BTP ?
Alors écoutez, les appels d'offres ne sont pas encore sortis si je ne m'abuse. Et vous savez, à Marseille, on a de très 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 grandes, enfin quand je dis grandes, des PME tout à fait capables. Moi qui travaille beaucoup avec la fédération par exemple du BTP, nous avons des opérateurs très largement capables de répondre à des appels d'offres nationaux. Mais les grandes entreprises, nous en avons besoin aussi. Donc par déclinaison, les grandes entreprises ont un rôle parce qu'elles sous-traitent auprès de PME. Pour celles qui n'ont pas la capacité de répondre aux appels d'offres, parce que répondre à un appel d'offres de l'État, c'est compliqué. Et puis, quand ça porte sur des montants pareils, croyez-moi, il faut, comme on dit, avoir les reins solides. Donc, la fédération du BTP est absolument capable, à même, de travailler dans ces réseaux pour accompagner les entreprises qui voudront répondre à tous ces appels d'offres. Moi, je suis, je le redis encore, toujours très certaine, parce que je vois les compétences dont nous sommes dotés. Nous saurons répondre, que ce soit les grandes entreprises, les PME et les TPE, dont on parle très peu.
Sabrina Agresti-Rouba, j'aimerais qu'on parle de l'amitié entre la France et l'Algérie. Après le voyage d'Emmanuel Macron en août dernier, Elisabeth Borne sera sur place les 8 et 9 octobre. Aujourd'hui, le rôle de l'Algérie en Méditerranée est central ?
Est central par rapport à la France, est central parce que nous sommes liés par notre histoire commune. L'Algérie et la France, c'est une histoire que personne ne peut renier ou nier. Donc oui, la place de l'Algérie est centrale, que ce soit sur les échanges commerciaux, mais que ce soit sur les échanges de valeurs. Donc c'est un pays frère, l'Algérie. Et c'est comme l'Arménie, vous voyez, ce sont des pays frères. Ce sont des pays sur lesquels, voilà, nous avons une histoire avec l'Arménie, nous avons une histoire avec l'Algérie. Et le voyage en Algérie du président de la République a été primordial sur le plan de la diplomatie, sur les échanges commerciaux, sur les échanges concernant les visas. Probablement que j'anticipe un peu votre prochaine question, mais nous avons, tout ça a été mis sur la table par le président de la République et nous sommes revenus avec, notre visite officielle s'est limite changée en visite d'État. Ça a été 3 jours et demi très intense et nous sommes revenus avec des débuts de discussion et puis nous, le travail parlementaire suivra. En tout cas, je peux assurer que nous suivrons, pour les parlementaires qui étaient dans cette délégation, des députés Renaissance, mais aussi des députés NUPES, avec qui nous travaillons sur ces échanges, avec des sénateurs comme Rachid Temal, PS, Christian Cambon, qui est LR. Donc voilà, nous avons encore beaucoup de choses à travailler ensemble et à réussir avec l'Algérie.
Et les relations entre la France et l'Algérie sont aujourd'hui apaisées. Faudra octroyer davantage de visas, notamment à des étudiants, par exemple.
Notamment, mais pas que, notamment aussi à des personnes qui ont de leur famille qui est ici, des membres de leur famille. Par exemple, je pense à ces retraités que j'ai rencontrés là-bas, qui sont retraités, des anciens chefs d'entreprise, des médecins, qui ont leurs enfants établis en France et qui sont soumis exactement aux mêmes restrictions de visa, on va dire aux mêmes contraintes de visa que n'importe lequel de leurs concitoyens. Donc nous avons à travailler sur ces visas, mais alors, en échange, l'Algérie doit accepter aussi de reprendre tous les Algériens qui sont issus de l'immigration illégale. Donc je dis, il faut être absolument ouvert sur cette immigration qui veut venir en France, mais qui vient probablement pour s'installer, mais aussi juste partir et revenir, comme on disait, faire des allers-retours, mais absolument ferme sur le retour des étrangers illégaux sur notre territoire. Je pense qu'on ne peut pas s'entendre si ça n'est pas mis au centre du jeu. Et ça a été mis par le président de la République. Donc le président Thébaud a parfaitement pris en compte les échanges que nous avons sur cette coopération, parce que la lutte contre l'immigration illégale, ça concerne l'Algérienne, hein, je parle, ça concerne l'Algérie directement.
Sabrina Agresti-Roubache, une loi sur l'asile et l'immigration sera présentée en 2023. Pourquoi une nouvelle loi est-elle nécessaire? Est-ce que c'est une loi qui va durcir les conditions d'entrée sur le territoire français?
Alors, elle est nécessaire parce que nous sommes au milieu du guet. Ce que nous faisons n'est pas à la hauteur du pays. Je m'explique. Nous n'accueillons pas convenablement et décemment ceux qui viennent chez nous. Et nous n'avons pas encore osé dire que nous devons choisir notre immigration. La France est un pays qui vieillit, nous faisons de moins en moins d'enfants, nous avons de plus en plus d'emplois non pourvus. Il suffit de rencontrer les patrons de fédérations pour vous dire à quel point ils ont du mal à recruter dans la restauration, dans le bâtiment, dans tous ces métiers. Et à un moment donné, on doit accepter de faire, mais regardez ce qui se passe de partout au Canada. Il faut poser les mots. Ce que nous faisons n'est pas digne de notre pays, le président de la République l'a rappelé. Donc nous sommes capables d'accueillir mieux, mais tout en imposant à ceux qui veulent venir en France d'adhérer à nos valeurs, liberté, égalité, fraternité, laïcité. Et le travail sur la langue, c'est-à-dire l'accès à la langue française et l'apprentissage de la langue, pour moi est fondamental. Fondamental. Dans tous les pays, quand vous arrivez quelque part, on vous demande d'apprendre la langue du pays. Donc, on ne peut pas avoir une vraie intégration des immigrés qui veulent venir chez nous si nous ne permettons pas un accès et un apprentissage de la langue parfaite.
Merci Sabrina Agresti-Roubache. Je rappelle que vous êtes députée Renaissance de Marseille. Bonsoir.
Merci infiniment. Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.